Navê min Hişta ye. Ez zimanê kurdî li Înalkê dixwînim. Ez 21 salî me. Je m'appelle Hişta. J'ai 21 ans et j'apprends le kurde à l'Înalkê.
De quoi rêvent les gens qui apprennent des langues lointaines? Et jusqu'où peuvent-elles les conduire?
Ma vie, ma langue. Ma vie, ma langue.
Grandir avec une langue que l'on parle en famille, à la maison, mais qui est interdite dehors. Puis rêver de la connaître mieux et l'apprendre, comme une revanche, des années plus tard à Paris. C'est l'histoire atypique d'Hişta. Lorsqu'on croise le regard pétillant de cette jeune fille kurde, difficile d'imaginer que du haut de ses 21 ans, elle a déjà vécu plusieurs vies et maîtrise plusieurs langues. Le kurde, l'arabe, l'anglais et le français. Mais le kurde, enfant Hişta n'avait pas le droit de le parler à l'école et guère davantage dans la rue. C'était en Syrie, son pays natal, puis au Liban, où sa famille a dû s'exiler quand son père, opposant politique, fut condamné à mort. Depuis 10 ans, ils habitent en France. C'est là qu'Hişta réalise son rêve. Elle étudie le kurde à l'Înalkê pour un jour défendre la cause kurde, en kurde, devant les institutions internationales.
Moi, mon but, ce sera de parler ce kurde universel, que tous les Kurdes dans toutes les régions du Kurdistan, ils vont le comprendre, pour le parler sur une plateforme internationale et en décrivant nos problèmes, notre histoire, notre lutte, tout en trouvant une solution aussi. J'ai fini ma troisième, j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac. Et à la dernière année du lycée, j'en discutais avec un responsable pédagogique. Il m'avait parlé de... C'est justement lui qui m'avait parlé de l'Înalkê. Mais il m'avait dirigé vers la langue arabe. Il m'a dit, parce que tu sais déjà parler arabe. Il connaissait déjà mon projet professionnel, que je voulais faire de diplomatie, etc. En rentrant à la maison, j'en ai parlé de l'Înalkê à mes parents. Et mon père, il m'a dit, ah, mais j'ai un ami qui est professeur à l'Înalkê. Et de là, j'ai découvert qu'il est professeur de kurde. Et de là, vraiment, j'ai pas hésité une seconde, quoi. J'ai direct accroché à ça et j'ai voulu faire du kurde. Vraiment, je dis waouh. Quand j'ai su qu'il y avait pas mal d'élèves qui s'intéressaient aussi, donc je me sentais moins seule déjà. Et en plus, je voyais qu'il y avait pas seulement les Kurdes qui s'intéressaient aux Kurdes, il y avait notamment des Français, il y avait d'autres nationalités, des Chinois carrément qui s'intéressaient aux Kurdes. Et c'est quelque chose qui était marrant pour moi, mais qui était vraiment très très touchant aussi. Et j'étais juste très 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 contente vraiment d'avoir découvert que je pouvais apprendre le kurde dans une école française, quoi.
Alors, je vais voir où on en était.
Plusieurs fois par semaine, Hişta quitte sa chambre universitaire pour suivre ses cours à l'Înalkê. En plus de l'expression orale et écrite des deux dialectes de la langue kurde, le sorani et le kurmanji, elle étudie l'histoire, le cinéma et la géographie kurde. Mais ce qui la passionne particulièrement ce semestre, c'est son cours de littérature classique sorani, dispensé par le professeur Amr Ahmed.
Takira Shakar, ça veut dire quoi?
Tu l'as rendu douce, littéralement. C'est toi qui as rendu Shirin douce à Parviz. Hein? Ça veut dire quoi littéralement? Tu l'as rendu douce. C'est-à-dire qu'il a aimé comme on aime n'importe quelle douceur. La traduction littérale, c'est ça. Et la traduction un peu plus... Le sens un peu plus... développé, ça serait c'est toi qui as rendu Parviz amoureux de Shirin.
En arrivant à Paris pour suivre vos cours à l'Înalkê, est-ce que vous avez été surprise par les cours qui ont été proposés, par la langue qui a été proposée, Hişta?
Absolument, pour moi c'était une découverte, comme si j'apprenais une nouvelle langue. J'ai découvert que le kurde que je parlais depuis ma naissance, en fait, c'était pas du tout le kurde qu'on voit dans les livres, par exemple. C'était totalement différent. La syntaxe... En fait, j'ai appris que je parlais mal ma langue, cette langue à laquelle je suis très attachée et que je suis absolument envie de la parler. Je la parlais mal, grammaticalement parlant. Mais après aussi, j'ai appris que, avec nos profs formidables de la section kurde, on a appris qu'il n'y a pas un parler mal. Il n'y a pas un parler incorrect ou un parler faux. Vu que ça n'a pas été une langue officielle, c'était donc très difficile d'unifier la langue. Par exemple, on le voit en français. En France, bon, ça a été fait par force. Je me rappelle, il y avait des gens en breton qui disaient qu'ils se faisaient frapper à l'école pour parler français. Et je pense donc qu'il n'y a pas eu vraiment un État qui a imposé le kurde. Donc c'est pour ça que chaque personne dans un village, ils ont parlé leur kurde. Donc c'est pour ça que les dialectes, par exemple, pour dire un mot, un objet, ça change d'une ville à une autre. Avant, je pensais que c'était une faiblesse de la langue kurde, que c'était pas unifié, que donc ça veut dire que c'est peut-être vraiment pas une langue forte. Mais j'ai appris ensuite que non, pas du tout, c'est le contraire. C'est justement ça qui donne la richesse de la langue kurde et sa beauté. En première année, on était des Kurdes de plusieurs villes, de plusieurs régions. Et donc chacun partageait comment il disait, comment sa grand-mère appelait ça, etc. Chez nous, on appelle le lit, on en dit Lvin. D'autres personnes, ils appelaient ça Nevin avec un N. Il y avait des choses qui me faisaient rire. Vraiment, c'est des choses. Par exemple, un mot normal dans une ville, Bepoz. Enfin, dans ma région, c'est le nez. Et dans une autre région, c'est une partie intime du corps, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement très, très différent, et c'est même le contraire d'une autre, et ça nous faisait rire, et c'était vraiment une belle découverte. Donc tout en partageant chacun les variétés de notre kurde parlé, on apprenait tous un kurde standard, un kurde auquel on avait toujours rêvé.
Et alors, cette envie de parler le kurde de la meilleure façon possible, elle vous vient d'où ?
C'est à cause d'une conscience que je pense qui m'a été transmise par ma mère. Nous sommes partis de la Syrie parce que mon père était opposant politique. Et donc, on est partis de Rojava depuis que j'avais 8-9 ans jusqu'au Liban. C'était donc en 2009-2010. Et de là, je pense, ma mère, elle a eu... Il a eu peur qu'on oublie le kurde, parce que du coup, on ne parlait plus kurde qu'entre ma petite famille, mon père, ma mère et mes frères. Et de là, dès qu'on disait une phrase en arabe ou qu'on mettait beaucoup, beaucoup de mots arabes ou libanais dans notre parler, notre discours, ma mère, elle s'énervait. Elle nous disait « Non, vous parlez kurde. Ne parlez pas arabe entre vous. Jamais. » Et vous gardez autant de mots possibles dans votre parler. Jusqu'à un moment, elle avait mis un truc pour mettre des pièces dedans. À chaque fois qu'on disait un mot... Oui, voilà, une tirelire. À chaque fois qu'on disait un mot arabe, on devait mettre une pièce dedans pour qu'on arrête de parler arabe entre nous à la maison.
Ça marchait ?
Oui, oui, ça marchait, oui.
Est-ce qu'il y a une chanson ou une cantine qui a marqué votre enfance en kurde ?
Il y avait beaucoup de choses, il y avait des chansons qu'on chantait quand il pleuvait. Il y avait notamment cette chanson qui était aussi engagée. On la chantait quand on avait 5, 6, 7 ans, quand on partait pour fêter justement le Nowruz.
Et alors, c'était quoi cette chanson ?
Yak do se. قلي ما قد ناطر سي دمش انتي يدهجي امي ولوت بسطين وشعري دجمن برجين.
Ça veut dire quoi?
Yak do se, donc c'est 1, 2, 3 en kurde. Et قلي ما قد ناطر سي, mon peuple n'a jamais peur, notre peuple n'a jamais peur. Quand on marche, on fait bouger les montagnes. On va reprendre notre pays et on va vaincre l'ennemi. C'était une chanson, elle était très, vraiment très forte, mais à l'époque, quand on est petit, ça nous donnait un coup d'adrénaline en partant vers cette fête qu'on savait que c'était interdit et que c'était un genre de résistance, oui.
Comment ça se passait à ce moment-là pour vous avec la langue kurde ? Est-ce que vous deviez parfois vous cacher pour la parler ?
on ne se cachait pas pour la parler quand on était chez nous, par exemple, parce que tout le monde parlait cette langue. Mais pour l'apprendre, par exemple, je me rappelle qu'il y avait des enfants qui se cachaient dans des maisons, par exemple, à chaque fois, enfin, chaque semaine, c'était dans une maison, pour l'apprendre de façon vraiment scolaire, on va dire, plus qu'écrire et lire, etc., et pas que parler.
Et alors, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez dire qu'en kurde ?
Par exemple, des expressions, quand on s'énerve, on parle qu'en kurde. Quand on va insulter quelqu'un, c'est qu'en kurde.
Et comment est-ce qu'on insulte quelqu'un en kurde, par exemple ? Comment est-ce qu'on s'énerve en kurde ?
Ah, quand on s'énerve en kurde, alors on est un peu plus qui s'énerve très très vite et, et on s'énerve... Ah, j'ai pas envie de dire des grands mots là, mais... c'est surtout... Enfin, on fait référence aux animaux. On va dire, est-ce que t'es un âne ? Je sais pas pourquoi, mais un âne, il symbole la stupidité chez nous. Donc on dit « matukere ». Je suis pas très fière de dire ça. Il y a beaucoup de choses plus belles dans la langue kurde que les insultes. Mais les gros mots, enfin, pas les gros mots, mais le champ lexical, on va dire, c'est des, de, par exemple, de la sexualité, si je me permets de dire, est très, très connu, notamment les chansons kurdes, les anciennes chansons kurdes. On voit beaucoup des, par exemple, un chanteur qui va, parler d'une femme qu'il aime de façon très cash. Et en plus, c'est des chansons qu'on chante dans les mariages, quoi. Donc vraiment, c'est où il y a les femmes et les hommes, et on chante ça sans même y prêter aucune attention. Donc je pense que ça montre un peu l'ouverture d'esprit des peuples kurdes depuis très longtemps.
Et elles disent quoi, ces chansons, par exemple ?
Par exemple, il va décrire le corps d'une femme avec vraiment des détails. Il va parler de ses seins, des courbes dans son corps, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Vraiment, c'est des choses qui sont très, très, très sensuelles et de façon très beau.
Quelque chose de très important, je crois, aussi chez les Kurdes, c'est la musique, la chanson. Mm. Est-ce qu'il y a des chansons que vous adorez particulièrement et pourquoi ?
Parce que c'est une sorte de littérature orale. Notamment un genre de chanson que j'aime beaucoup, les Dengbej, c'est...
Vous nous en feriez écouter un petit peu ?
Oui, bien sûr.
On peut peut-être en mettre une, comme ça.
Alors, normalement, il n'y a pas de musique dans ce genre de chanson, mais cette musique, elle a été ajoutée récemment, et je pense que le but de cet ajout, c'est faire... rapprocher les jeunes Kurdes à leur tradition. Ce genre de chanson qui est très très beau et vraiment ils lisent des poèmes de très longs poèmes. Donc moi ça me fait très très plaisir, vraiment on voit de plus en plus une conscience culturelle. Je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, j'ai l'impression que c'est, ça me met dans un autre état d'esprit. C'est, ça m'englobe vraiment. Je suis plus là quand j'écoute ça. Oui.
Et est-ce que vous rêvez en kurde, Ishta?
On résiste en kurde et on aime en kurde. Je pense, on surtout rêve en kurde. Oui.
Quand vous étiez petite, votre langue, c'était quoi ?
C'était le kurde. À la maison, on parlait tous kurde. Et j'ai appris l'arabe seulement à l'entrée à l'école. On était obligés, dans un sens. Quand on parlait kurde avec nos amis, parce que c'était la seule langue qu'on parlait, les professeurs arabes syriens, qu'ils ramenaient bien sûr d'autres régions de la Syrie, ils nous grondaient, ils nous rabaissaient, ils montraient cette langue, c'était enfin comme une langue des personnes barbares, c'est pas une langue civilisée. On n'avait pas le droit en fait de la parler ni de l'apprendre. C'était que l'arabe. Mais quand on sortait de l'école, on reparlait entre nous en kurde comme si de rien n'était.
Est-ce que vous vous souvenez de mots de quand vous étiez petite? De mots en kurde qui étaient très forts, de mots que vous prononciez très souvent.
Je sais pas parce que c'était la langue qu'on parlait tous les jours, donc j'ai pas vraiment en tête de langue mot fort, mais je pense que le mot kurde lui-même, c'était le mot fort, parce que c'était le mot qui nous mettait pas en danger, mais qui nous mettait à l'écart. C'était le mot pour lequel... Pardon. Si on était... en fait, si on nous refusait, c'est parce qu'à cause de ce mot-là, le mot kurde.
Ça se manifestait comment, Ishta, ce rejet?
Alors moi, j'étais encore petite, mais je me rappelle, par exemple, il y avait toujours des révoltes, il y avait toujours des... il y avait toujours des attaques contre nous, surtout pendant la fête de Nowruz. Et quand on parlait à l'école, il y avait des élèves arabes qui disaient « Oui, vous méritez ça. » Et on ne comprenait pas, nous.
Vous méritiez quoi, par exemple?
Méritiez de se faire tuer. Et c'était des enfants, donc vraiment... on ne comprenait pas, mais en même temps, on avait cette conscience politique, cette conscience ethnique. On savait qu'on n'était pas arabe, on était kurde, et c'est pour ça qu'ils ne nous aimaient pas. Et... voilà.
Est-ce qu'il y a des choses, Ishta, notamment la douleur peut-être, que vous ne pouvez ou que vous ne voulez exprimer qu'en kurde, justement?
Dans la littérature kurde orale, et non pas classique, la littérature traditionnelle orale, ça veut dire les chants, les contes, etc. Ils sont surtout tournés autour de la douleur, justement, de l'injustice qu'on subit. C'est toujours une femme qui pleure son enfant... voilà, et justement, cette douleur, comme vous avez dit, si c'est pas en kurde, on pourra pas y faire parvenir l'image qu'on veut au monde. Et même si deux Kurdes parlent entre eux, si c'est, on parle dans une autre langue, on ne pourra jamais faire passer l'idée qu'on veut si c'est pas en kurde. C'est comme si notre langue et notre histoire et notre douleur, ils sont tous liés entre eux. Ils sont attachés, en fait, à notre peau. Et voilà, comme vous avez dit, si c'est pas en kurde, on pourra pas décrire ce qu'on a vécu, parce que c'est seulement les Kurdes qui l'ont vécu.
Et puis la langue, ça fait d'air aussi, entre vous.
Exactement. C'est avec cette histoire commune, justement, elle est représentée par la langue. Même s'il y a des variétés de langues, je pense que les mots clé pour décrire une douleur, c'est la même partout. Pour décrire, par exemple, un martyr en kurde, je pense que c'est le mot commun entre tous les Kurdes. On appelle ça shahid. Et ça veut dire une personne qui est morte pour le pays, une personne qui est morte en luttant.
Et alors, quand vous étiez en Syrie et au Liban, le kurde, cette langue interdite à l'école, ouais, ça se manifestait comment? Et pourquoi est-ce que le kurde résonne en vous de façon aussi politique et intime?
C'est notre identité. Une personne qui ne parle pas sa langue, c'est une personne qui, selon moi, a perdu une grande partie de son identité. Et moi, je voulais pas perdre cette partie énorme pour moi de mon identité. Enfin, moi, je suis certes ma personnalité, mon caractère, les choses que j'aime, les choses que j'aime pas, mais en tant que kurde, c'est la partie la plus importante de moi. Moi, avec un grand M. C'est la chose qui donne un sens dans ma vie. Des fois, il y a des personnes qui recherchent un but, un sens dans leur vie. Et moi, depuis toute petite, je savais que c'était ça. C'était mon identité kurde. Et donc, la partie la plus importante dans cette identité, c'était la langue. Et que je voulais vraiment la perfectionner, pour que ce soit un outil pour moi et de la développer pour découvrir d'autres identités, d'autres parties de mon identité kurde. Par exemple, l'histoire, la politique, mais pas la politique moderne, la politique... Qu'est-ce qui a causé notre situation aujourd'hui, par exemple? J'avais toujours envie de trouver une solution de notre situation. Je savais depuis toute petite, j'avais 8 ans, 9 ans, je savais que c'était pas normal. Quand on passait devant des policiers ou de l'armée syrienne à Qamishlo, on avait peur. Et donc, je pense que c'est cette peur-là qui est... Je savais que ce n'était pas normal, cette peur-là. Et à chaque fois qu'on entendait quelqu'un est mort, quelqu'un a été tué, on savait que ce n'était pas normal non plus. On le savait que cette personne est morte parce qu'elle est kurde. Moi, mon but, ce sera de parler ce kurde standard, universel, que tous les Kurdes dans toutes les régions du Kurdistan, ils vont le comprendre, pour le parler sur une plateforme internationale et en décrivant nos problèmes, notre histoire, notre lutte, et tout en trouvant une solution aussi. Et qu'un jour, je puisse vraiment, dans cet angle-là, m'adresser aux Kurdes et leur dire que c'est bon, c'est fini, on a... qu'on est un peuple, pardon, comme tous les autres, et que on va plus mourir. Ce qui me fait surtout, personnellement, je pense tout le monde souffrir, c'est quand on voit des jeunes filles et garçons mourir. Mourir pour la liberté, mourir pour la paix. C'est surtout ça, en fait, que j'ai envie d'arrêter. C'est un jour pouvoir dire aux mamans kurdes, que vous n'allez plus perdre vos enfants. Désolée. C'est vraiment... c'est ça ce que je veux faire, c'est mon but. C'est que les Kurdes, ils ne soient plus tués, plus jamais tués à cause de ce qu'ils sont. Parce que c'est même jusqu'à aujourd'hui... que ce soit à Rojava, Kurdistan syrien, ou à Rojava, Kurdistan iranien, même aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, les Kurdes, ils sont visés encore davantage, parce qu'ils sont kurdes aussi encore. Il y a tous les jours, vraiment tous les jours, sans exagération, il y a des gens qui meurent.
Parce qu'ils sont identifiés comme kurdes.
Oui, absolument. Et c'est ça ce que j'ai envie de faire à travers la langue kurde. On pense que la langue, c'est quelque chose qui nous sert juste de communication, mais je pense que c'est beaucoup plus fort que ça. Je pense qu'avoir une langue, c'est pouvoir s'exprimer, c'est pouvoir parler à voix haute que je suis là, que j'existe. Et c'est là qu'on pourra faire changer les choses. Changer les choses, changer les choses, changer les choses.
Aujourd'hui, Ishta maîtrise de mieux en mieux le kurde. Elle peut le parler où elle veut. Bientôt, ses études lui permettront de trouver les mots justes pour défendre son peuple dans sa langue maternelle retrouvée sur la scène internationale. Retrouvez d'autres langues et d'autres destins sur les sites et applications de RFI et sur toutes les plateformes de podcasts.